Alors, je vais faire une annonce en avant. Tournée de mobile dans 2 Chroniques 20, parce qu'on va lire une histoire là, au fin du message. Mais pour assurer que ce n'est pas trop long, on va garder un papier ou quelque chose là, dans 2 Chroniques 20, pour tourner là, au fin du message, pour une histoire biblique. Parce que des histoires bibliques nous montrent des vérités dans la Bible. On doit comparer la Bible par la Bible. Et on va voir une histoire au fin du message qui, je pense, c'est comme une illustration de le message qu'on va regarder aujourd'hui. Mais pour notre texte, on est dans Matthieu 9. Alors, 2 Chroniques 20, un papier ou quelque chose là pour garder place, puis Matthieu chapitre 9. On a lu ce chapitre en complet, alors on ne va pas juste lire notre texte qui commence en verset 27. Matthieu 9, verset 27. « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondit-il. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. On va recentrer aujourd'hui effectivement des deux phrases « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» et la phrase « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » On va prier d'abord. Seigneur, je te remercie pour aujourd'hui. Je te remercie pour la joie d'être réunis ici ensemble, ton corps, l'Église. Et je te remercie vraiment pour ça, pour le bel soleil aujourd'hui. Merci pour ta parole que nous ouvrons pour voir toi. Et Seigneur, je prie qu'on va voir Jésus dans ce message, parce que c'est Jésus notre vie. Je prie que tu sois... Tu sois mes paroles aujourd'hui, que tu vas prêcher le message que tu veux aujourd'hui. Je prie ces choses en ton nom. Amen. Alors, dans notre passage, la renommée de Jésus en ce moment de son ministère était en train de répandre beaucoup. On voit après le miracle de donner la voix pour les aveugles, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Mais d'abord, le début de chapitre 9, Jésus vient de revenir du pays des Gadaréniens, où il a guéri deux démoniaques. Et je pense que ça attire l'attention des gens quand Jésus fut des miracles. Sa renommée est répandue. Lors de son retour au début du chapitre 9, il guérit un paralytique et lui pardonna de ses péchés. Ça provoqua les scribes à dire que Jésus avait blasphémé. Les gens ont vu ce que Jésus faisait. Il était la fameuse Jésus qui fait des choses dans ce pays. Ensuite, Jésus appela Matthieu à être un de ses disciples. Mais cela est significant parce qu'il était publicain, un collecteur d'impôts. On n'aimait pas des publicains, des gens qui ont pris des taxes. On ne les aime pas encore aujourd'hui. Mais ça serait quelque chose d'attirer l'attention des gens. Hein, Jésus a appelé lui pour le suivre. Qui est ça, ce Jésus? Puis aussi, Jésus a guéri une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et ressuscita la fille de Jairus. Ce Jésus faisait beaucoup de miracles. Et je pense qu'en ce moment, les aveugles ont entendu parler de ce Jésus et pensé, tu penses que ce Jésus puisse nous guérir? Ça se peut que Jésus puisse nous guérir? Alors il dit en verset 27, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. » Ces aveugles ont entendu que Jésus était là. Hey, peut-être Jésus peut nous guérir. Demandons à Jésus. Alors il crie, il criait, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Ils continuaient à demander à Jésus de leur guérir. Et Jésus a demandé cette question: croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont dit oui, et Jésus leur a dit: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et ça, c'est le message aujourd'hui: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la question aujourd'hui, le type de message: qu'est-ce que votre foi produit? Cet mot « selon », c'est-à-dire relatif à, proportionnel à. On peut dire « l'effet est égal à ou à la mesure de l'effort ». On en retire ce qu'on y met, si ça fait bon sens. Si on travaille et on reçoit un salaire par heure, si on reçoit, c'est maintenant 15$ par heure pour minimum, ça c'est bien bizarre. Mais si on travaille 5 heures, on recevra selon ces 5 heures en argent. Si on travaille 10 heures, on va recevoir plus parce qu'on reçoit selon. Ça, c'est le mot selon, relatif à proportionnel. Alors Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Autant que vous avez la foi, autant il vous soit fait. C'est ce qu'il a dit. Alors, je vais dire par rapport de ça que la puissance de Dieu n'est que aussi forte que votre foi. Et ça semble être bizarre, ça. Est-ce que maintenant je suis en train de prêcher l'évangile prospérité? Ah, oh, je peux contrôler la puissance de Dieu par ma foi. Dieu, je veux avoir un Lamborghini, je veux avoir $1,000,000. Alors, la puissance de Dieu n'est que aussi forte que ma foi. Alors, si j'ai un grand foi, je vais avoir des grandes choses. Ça, c'est pas le but du message aujourd'hui. Alors, si on part d'ici en pensant ça, je pense que j'aurais lâché la patate vraiment. Alors, priez donc pour moi que ça soit la parole de Dieu et pas de moi, parce que je veux pas prêcher l'évangile prospérité, on va voir aujourd'hui. Mais je pense que c'est vrai que la puissance de Dieu n'est que aussi forte que votre foi.
Amen.
En Marc chapitre 9, c'était le père dont le fils était démoniaque. Il a prié à Jésus et a dit: si tu y peux quelque chose, aide-nous et aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Mais quand on parle de la puissance de Dieu, je parle de la puissance qu'il produit et pas celle qu'il possède. Parce que Dieu possède toute puissance. Il est le tout-puissant. Par rapport à sa puissance ou capacité à faire quelque chose, c'est pas qu'il ne peut pas, mais qu'il ne va pas. C'est comme dans Matthieu 13, 58, « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Ça, c'est triste à penser. Les aveugles, les paralytiques, les gens avec les troubles qui n'ont pas cru, n'étaient pas guéris. Dieu était capable, Jésus avait la puissance de leur guérir, mais à cause de leur manque de foi, il ne fit pas. Ce n'est pas à dire que Dieu n'était pas capable, mais Dieu ne faisait pas. Ce n'est pas nécessaire à dire qu'on peut limiter Dieu, mais quand même, en psaume 68, ça dit dans le langage original que les gens d'Israël ont limité Dieu à cause de leur incrédulité. Ce n'est pas le plan de Dieu pour les peuples d'Israël de voyager pour 40 ans dans le désert. Ce n'est pas le plan de Dieu, mais à cause de leur incrédulité, ils ont limité Dieu à cause de la foi qu'il n'y avait pas. Mais il ne s'agit pas de la puissance de votre foi, mais de votre foi en sa puissance. Parce qu'on ne part pas de « alors, si j'ai une grande foi ». Mais non, si on a une petite foi qui est placée en Jésus, c'est l'objet de votre foi qui est important. Ce n'est pas la quantité. Ça dit dans Éphésiens 1, verset 18 à 19, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette phrase « par la vertu », c'est le même mot en grec que « selon ». Pour nous qui croyons, on va voir l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant en efficacité par la vertu de sa force. C'est par part de lui, pas de nous. C'est pas à dire qu'on peut avoir une grande foi de voir des choses merveilleuses par ça. Quelqu'un a dit que la foi, c'est pas la croyance que Dieu fera ce que vous voulez. C'est la croyance que Dieu fera ce qui est juste. Alors pour dire, Dieu, je veux avoir ça. Et tu as dit que tu vas agir selon ma foi, alors j'ai la foi que je vais recevoir ça. Mais la foi, ce n'est pas que je recevrai ce que je veux, mais ce que Dieu veut pour moi. C'est de Dieu. Alors, combien de la puissance de Dieu produit votre foi? On va regarder trois principes de la foi pour produire la puissance de Dieu dans votre vie. Et pas dans un sens prospérité. Parce que ça, ce n'est pas le but. Et on va voir là, par rapport à le premier point aujourd'hui. Premièrement, il faut avoir un désir. On voit les aveugles qui étaient là, qui suivit Jésus. Et si vous pouvez imaginer ça, un aveugle qui suit quelqu'un. On ne peut pas voir. Peut-être on trébuche. Peut-être on tombe en courant auprès de quelqu'un. C'était un grand désir d'être guéri. C'est comme, je pense que c'était Bartimaeus. Est-ce que c'est ça? En anglais, Bartimaeus, blind Bartimaeus. Bartimaeus. Ça dit qu'il a laissé son manteau en chassant Jésus. Le manteau, c'est la seule source de confort pour un aveugle. C'est son tout d'être. C'est tout ce qu'il a. Et il l'a laissé poursuivre Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Ils avaient un désir ardent. C'est l'idée de poursuivre Dieu avec passion. D'avoir un patient en nos prières. Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. En Marc, chapitre 9, cette père qui avait le fils démoniaque qui a prié et a dit en verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Mais on voit ici, avec cette passion, ce désir, ayez pas seulement un désir pour ce que Dieu puisse faire, mais surtout ayez un passion et un désir pour Dieu lui-même. En prière, quand on prie pour des choses, on prie pour des miracles, on prie pour que Dieu puisse faire des grandes œuvres ici, dans nos églises, au Québec, au Canada. On prie pour des âmes non sauvées, on prie pour que Dieu puisse faire un réveil, mais il ne faut pas juste avoir un désir pour que ce que Dieu puisse faire, mais pour Dieu lui-même. Parce qu'on a besoin de Dieu. On doit poursuivre Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire si Dieu ne répond pas selon nos désirs? Dieu, je veux avoir telle chose. Je veux que tu fasses telle chose. Et si ça ne se passe pas, puis quoi? Ok, Dieu n'a pas répondu à mon prière. J'ai rien. On a toujours Dieu. Je pense les trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, dans Daniel 3, leur réponse à le roi Nebuchadnezzar. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, Ça, c'est un bon mot. C'était un pasteur qui a prêché. En anglais, c'est trois mots. But if not. Sinon, il a prêché sur ces trois mots. Le cri d'un âme. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et ça, c'est cette passion, ce désir pour Dieu. C'est Dieu, j'ai un tel besoin dans ma vie et j'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Mais sinon, tu es toujours mon Dieu. Tu es toujours là. Ça, c'est le but. En cherchant Dieu. Dans Hébreux 11, 6, le verset qu'on sait, on connaît beaucoup. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous cherchez Dieu dans vos problèmes? C'est comme notre pasteur dit souvent, c'est pas juste la vie est remplie des problèmes. Mais c'est des rendez-vous de rencontrer Dieu. Et cette passion, ce désir de notre foi, ce n'est pas juste un désir pour des miracles, pour ce que Dieu peut faire, mais pour Dieu lui-même. Le temps passé dans la prière n'est jamais du temps perdu. Pour prier pour des choses, pour prier ardemment, pour prier avec ferveur, même si Dieu ne répond pas, cette relation avec notre Père Céleste, c'est ce que Dieu veut surtout. Dieu veut qu'on le cherche et le trouve dans nos problèmes. Ce n'est pas juste à dire la vie est remplie des épreuves. C'est comme ça dit souvent, la vie est dure, puis on meurt. En anglais, life's hard, then you die. Non, c'est pas ça. La vie, c'est le don de Dieu pour nous. Même la vie qu'on a, c'est plus qu'on mérite. Mais c'est l'occasion de louer Dieu. C'est l'occasion de connaître Dieu. Alors, c'est pas juste à penser, OK, j'ai tel problème. J'ai de la misère avec ça. Oh well. Ben non. Prie pour que Dieu puisse faire une œuvre, mais surtout, trouver Dieu là-dedans. Ayez cette passion pour Dieu. Amen. Votre vie de prière est-elle passionnée? Est-ce que vous avez ce désir ardent, même pour Dieu, et pour qu'il puisse faire une œuvre? Parce que ces aveugles étaient, il y avait un désir. Jésus, aie pitié de nous, fils de David. Ils ont crié beaucoup après Dieu dans ce désir, même pour Dieu, pour Jésus lui-même. Et est-ce qu'on a ce désir pour Dieu dans nos fardeaux? On a vu pour Pâques cette adoration pour Dieu, mais aussi dans l'après-midi, dans la nouvelle alliance que Dieu nous a donné beaucoup de choses grandioses dans la nouvelle alliance que Dieu. Il suscite nous, il prend soin de nous. Déchargez sur lui tous vos fardeaux, parce qu'il suscite nous. Amen. Et je ne sais pas si c'est comme ça exactement dans le français, mais je dois mémoriser des versets en français beaucoup. Mais de donner à Dieu tous nos problèmes, parce qu'il les a pris sur la croix. On a vu mercredi, quand Jésus était dans le jardin, en priant dans le jardin, que cette coupe passerait de lui. Il a pris tous nos fardeaux, il a pris tous nos soucis, toutes nos inquiétudes. Il les a pris sur lui. Pour qu'on puisse avoir un désir pour Dieu. Si ça ne se passe pas comme on veut, on a encore Jésus. Et quand on donne des problèmes à Jésus, comme lamentation que pasteur nous montre, dans lamentation, dans le grand milieu des problèmes, ben, les bontés de Dieu sont toujours là, sa miséricorde est toujours là, la fidélité de Dieu c'est toujours là. Lamentation 3, 22 et 23, je pense. Alors d'avoir ce désir pour Dieu en priant. Alors pour avoir l'efficacité de Dieu, la puissance de Dieu, il faut avoir un désir, mais surtout pas juste un désir pour ce que Dieu puisse faire, mais pour Dieu lui-même. Alors, ça, c'est pas dans l'évangile de prospérité pour Dieu, c'est juste les miracles que Dieu fait. C'est pas pour Jésus. Mais ayez un désir pour Jésus. Deuxièmement, il faut être diligent. Il faut être diligent. Ça dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, mais aussi l'idée là, c'est lorsqu'il fut entré à la maison. C'est comme Jésus était là, et il est allé quelque part dans la ville. Les aveugles les suivaient. C'est comme Jésus lui a ignoré. Il est entré à la maison. Il n'a pas arrêté tout de suite pour leur aider. Il est entré à la maison. Jésus, t'entends-tu pas des aveugles qui crient après toi? Mais les aveugles n'ont pas pensé, oh, il est parti. Ok, c'était pas le plan de Dieu pour nous, on ne va pas demander encore. Ça dit, les aveugles s'approchèrent. Ils ont continué à demander encore, une fois encore. Demande encore, demande juste une fois. Mais deux, trois, quatre. Persistez dans la prière avec patience. Amen. Soyez diligents. En Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. On va lire un passage dans Luc 18, brièvement. C'est l'histoire de l'importunité. Je pense que c'était pas exactement une parabole, c'était peut-être une vraie histoire que Jésus a rencontrée ici. En Luc 18, Jésus leur adressa une parabole, c'était une parabole, désolé, une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ça, c'est pas un bon juge. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » J'aime ça. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge Énique et Dieu. C'est des mais Dieu. Et Dieu. Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je pense qu'une partie de la signification de ça, c'est-à-dire que quand Jésus est venu pour répondre à nos prières, est-ce qu'on va être priant encore, toujours, pour ça? Dieu, je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça. Dieu arrive pour répondre. Hein, tu ne pries pas encore pour ça? Je t'ai prêt pour répondre, mais ça paraît que tu ne veux pas. Tu ne veux plus. OK. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette histoire d'importunité, de continuant de prier encore, encore, encore. Lâche pas. N'arrête pas de demander à Dieu. Le silence de Dieu n'est pas son indifférence. On est proche dans Matthieu, à Matthieu 15, on va voir une histoire de la femme cananéenne qui a demandé un miracle pour Jésus, qui a persisté, qui était diligent. Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Encore Jésus qui répond pas. Ça, c'est pas le Jésus que je connais. Mais, qu'est-ce qu'il faisait là? Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Pense pas à les autres gens ici. Mais cette crise, c'était pas dérangeant pour Jésus. C'était un bruit de foi pour Jésus. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi! » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et pour les mots qu'il utiliserait dans hébreu, c'était comme une insulte ce qu'il a dit. C'est pas gentil ce qu'il a dit. Parce qu'il n'était pas juif. Jésus est allé pour des juifs, était païenne. Jésus n'était pas allé pour les païennes, mais quand même, elle avait foi. Elle dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Et tu sais pourquoi c'était grande? Parce que c'était en Jésus. Amen. Que tu sois fait comme tu veux. C'est-à-dire selon votre foi. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On voit sa foi en continuant, en étant diligent, persistant en prière. Dieu veut répondre à ta prière, mais il veut d'abord voir ta foi. Est-ce que tu vas prier encore une fois? Vous n'exercez pas votre foi si vous ne priez pas. Quelqu'un dit, quand nous travaillons, nous travaillons. Quand nous prions, Dieu travaille. Amen. Il faut que Dieu fasse ce qu'il veut.
Amen.
Alors, priez donc.
Amen.
Et ça nous mène dans le troisième point. Il faut avoir un désir, pas juste pour ce que Dieu puisse faire, mais pour Dieu lui-même. Mais aussi, il faut être diligent, mais il faut dépendre.
Amen.
Parce que ce n'est pas à nous à faire quelque chose. Et ça, c'est le point le plus important de ce message. Remettez vos problèmes entre les mains de Dieu. Parce que Jésus leur a demandé, croyez-vous que je puisse faire cela? Il n'a pas demandé, croyez-vous que vous avez assez de foi? Parce que ce n'est pas la grandeur de la foi, mais le où il est mis. Croyez-vous que je suis capable? Ce n'est que lorsque nous croyons que Dieu possède la puissance qu'il la produit dans nos vies. Tout dépend dans quelle main il se trouve. Qui ici sait des Rubik's Cube? Des casse-têtes, un cube Rubik? Moi, je ne peux pas le solver.
Résoudre.
Je ne peux pas. Mon frère, il le peut. Très vite. Son record, c'est moins 10 secondes. Sous de 10 secondes. Je viens de parler avec lui pour lui souhaiter une bonne fête. Et je parlais là-dessus, pas pour cette illustration, mais j'ai pensé là-dessus et il a dit, hey, pas encore, il a perdu son talent. Mais quand même, dans son plus vite, c'était comme 8 secondes de résoudre. Imaginez ça, c'est un problème. Moi, je peux faire rien avec. Mais si je donne entre les mains de mon frère, c'est fait, c'est réglé. Et ça, c'est l'idée. De dépendre à Dieu. De donner tous vos problèmes dans les mains de Dieu. Mais ce n'est pas à dire qu'au moment que vous donnez vos problèmes à Dieu, tout est réglé. J'ai dit, ce n'est pas l'évangile prospérité. Ah, je vais donner mes problèmes à Dieu et tu vas être bien bon. Mais je pense que personne ici a vécu ça. Et je comprends qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens dans nos églises qui sont en train de vivre des défis, des épreuves. vraiment dur. Alors, c'est pas à dire qu'au moment qu'on donne des problèmes à Dieu, dès qu'on fait ça, c'est tout fini. Mais quand on trouve Jésus là-dedans, Jésus comme notre vie, même si les problèmes persistent, ils sont dans les mains de Dieu. C'est pas à nous d'inquiéter de ça. Ça nous donne une paix. Ça nous donne la joie, même si les problèmes persistent. Mais imaginez ça. Le cube Rubik. Alors, Levi, c'est mon frère. Montre-moi comment on résout ça. Montre-moi comment faire. Qu'est-ce que je dois faire? Mais les algorithmes qu'on fait, c'est à gauche, à droite. C'est bizarre pour penser. Okay. T'as dit quoi? Non. Dans la vie. Jésus, j'ai un problème dans ma vie. Montre-moi comment faire ça. Aide-moi de faire ça. Ok, j'ai besoin de toi. Ok. Non. Jésus, je pense qu'il faut être comme ça. Ça, c'est, ça fait pas bon sens de faire comme ça. Non. Relâchez. Laissez-le dans les mains de Dieu.
Amen.
Dieu,
moi, je peux pas. Mais Dieu, tu es le Tout-Puissant.
Amen.
Croyez-vous que je puisse faire cela? Et selon cette foi, et vous soit accordé. Essayez pas dans votre force. On a vu vraiment dans les derniers mois comment les bons œuvres de la chair servent à rien. Et pour dire j'ai des problèmes et avec la foi je vais demander à Dieu quoi, comment. Mais comme c'est dit, la réponse c'est pas quoi, c'est qui. Donne des problèmes à la qui peut aider. Essayez pas dans les œuvres de votre chair parce que ça sert à rien. Laissez Dieu. En anglais, on dit let go and let God. Relâchez et laissez Dieu.
Amen.
2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le thème du avril. Notre source d'abondance.
Amen.
Nous avons un Dieu qui possède toute abondance, qui possède toute puissance, mais il ne produit qu'un dans nos vies lorsqu'on a la foi. Pas la grandeur de la foi, parce qu'il vaut mieux d'avoir une petite foi en Dieu qu'une grande foi en nous-mêmes. Éphésiens 3, 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Amen.
De quoi demandez-vous? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu puisse faire? Non. Il peut faire infiniment au-delà de ça.
Amen.
Est-ce qu'on le croit? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est un partage d'un commentaire, je pense, à Matthew Henry, par rapport à ce passage. Ceux qui veulent bénéficier de la miséricorde du Christ doivent croire fermement à la puissance du Christ. Ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, nous devons être pleinement convaincus qu'il est capable de le faire. Les aveugles, ils ont suivi le Christ et l'ont suivi en pleurant, mais la grande question est, croyez-vous? La nature peut produire de la ferveur, mais seule la grâce peut produire la foi.
Amen.
Ils avaient manifesté leur foi en la fonction du Christ en tant que le fils de David. Et en sa miséricorde, ils ont dit, « Aie pitié de nous, fils de David. » Mais le Christ exige également une profession de foi en sa puissance. Croyez-vous que je puisse faire cela? Qu'est-ce qu'on veut que Dieu fasse ici, au Québec, au Canada? Il faut qu'on croie à ça. Un autre Jésus qui peut toujours sauver les âmes, Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il y a des âmes non sauvées, représentant ici des amis, des parents, des relations. Est-ce qu'on croit que Dieu puisse les sauver? On a un désir de voir un réveil ici au Canada. Est-ce que Dieu est capable de faire ça? Est-ce que Dieu est assez puissant de faire ça? De voir des âmes sauvées, de voir des relations restaurées? Il y a des soucis dans nos cœurs, il y a des problèmes, il y a même des craintes. Donne-les à Dieu et crois qu'il puisse le faire. Dieu est capable, le croyez-vous? Ça, c'est la question. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable? Ce désir, même pour Dieu, cette diligence de continuer en prière, mais aussi cette dépendance en disant, Dieu, c'est juste à toi. Je crois que tu peux faire. Quelqu'un dit que la foi, ce n'est pas juste la croyance que Dieu peut faire quelque chose, mais c'est d'agir comme s'il va faire quelque chose. C'est comme l'histoire d'un fermier qui a sermé sa moisson. Mais il était un famine. Il n'était pas de pluie là. Les deux fermiers ont prié pour la pluie. Mais qui avait la foi? Celui qui a planté ces choses. Pour agir comme si Dieu va faire ce que je demande. Parce que s'il ne fait pas, c'est comme le salut. C'est la croyance, pas juste que Dieu peut me sauver, mais la croyance que Dieu va me sauver. Parce que si je meurs, j'ai rien à moi à faire confiance. C'est tout à Dieu. Si Dieu ne me sauve pas, je suis tout perdu. C'est en laissant tout à Dieu. Comme l'illustration d'une chaise. Si on s'assoit sur une chaise, c'est rien à nous de nous supporter. C'est tout à la chaise. Alors si je crois, hein, je pense que cette chaise peut me supporter. Je le pense. J'ai la foi. Oui, j'ai la foi. Je crois qu'il est capable. Mais la foi, c'est quand on agit. Comme si, parce que si ça ne me supporterait pas, je serais sa terre. Ça, c'est un embarrassement, vraiment. Mais la foi, c'est d'agir comme s'il va faire. Et la foi en Dieu. Dieu, je ne sais pas comment ça va passer, mais je crois que tu vas faire ça.
Amen.
Je crois que tu vas sauver les âmes, alors je vais partager l'évangile. Je crois que tu vas nous donner un réveil, alors je vais prier là-dessus et je vais continuer à l'église. Je crois que tu vas restaurer les relations, alors je vais continuer de prier pour eux, de les appeler, de voir ce que Dieu va faire ça. La puissance de Dieu n'est que aussi forte que votre foi en sa puissance. Parce que ce n'est pas la croyance que Dieu fera ce que vous voulez, mais c'est la croyance que Dieu fera ce qui est juste. C'est la volonté de Dieu de voir les âmes sauvées. Alors, priez là-dessus. On prie selon la volonté de Dieu qu'on prie pour les âmes d'être sauvées. C'est la volonté de Dieu de prier pour des relations restaurées parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la croyance que Dieu fera ce qui est juste. Et il ne peut faire le bien que s'il le fait. Quand c'est Dieu, quand on les laisse dans les mains de Dieu. Tournons dans notre histoire dans 2 Chroniques 20. On va commencer en verset 1, juste à lire cette histoire et voir vraiment des vérités ici qu'on vient de voir dans cette histoire de Josaphat. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux de Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en enfermer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hath-Stasson Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ça, c'est le désir. Pas juste pour que Dieu puisse faire, mais pour l'Éternel, pour Dieu lui-même. Point 1 dans nos messages. De chercher l'Éternel. Et il publia une jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée et Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sien de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à d'Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici que nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exauceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Amen. Il a mis entre les mains de Dieu. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Banaja, fils de Jehiel, fils de Mataniah, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez.
Amen.
Ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous.
Amen.
Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kehatite et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermés. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Regardez ça. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges,
Amen.
C'est là que l'Éternel leur a délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un désir pour Dieu, ils cherchaient l'Éternel. Ils ont dit en verset 12, « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Je ne peux pas résoudre le problème, Dieu. Il a dit dans les versets 6 à 8, « N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? C'est toi qui regarde, Seigneur, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi qui puisse faire cela. Alors je donne entre tes mains. » Puis quand Jésus a promis la délivrance, ils ont loué et célébré. Et ça, c'est tout ce qui reste pour nous, de célébrer. Comme ça dit dans la chanson, nous avons la victoire.
Amen.
Pas nous aurons la victoire, nous avons.
Amen.
Maintenant, la victoire. Célébrez-la, louez-la. Mettez-la dans les mains de Dieu. Et tout ce qui reste pour nous, c'est d'avoir la joie, la paix, de voir la puissance de Dieu. Parce que ce ne sera vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et quand c'est Dieu, ce n'est pas prospérité, ce n'est pas que tout se passerait dans nos mains, dans nos vies. Ce n'est pas ça. Mais c'est que Dieu est là pour nous. Nous avons la victoire. Remettre vos problèmes à Dieu est le seul moyen de le voir accomplir ce que seulement lui puisse faire par sa puissance. Alors que devez-vous donner à Dieu aujourd'hui? Il y a beaucoup des problèmes, il y a beaucoup d'épreuves. Mais Dieu est capable. Croyez-vous qu'il puisse le faire? Selon votre foi, il vous sera accordé. Prions. Seigneur, on te remercie vraiment pour tes promesses dans ta parole. Seigneur, merci que tu nous as donné la victoire déjà en Christ. Que tu nous as mis en Christ. Merci pour cette victoire en Jésus. Mais quand même, Seigneur, il y a des vraies épreuves dans la vie. La vie, c'est pas toujours comme on veut, mais toujours, Seigneur, tu es là pour nous. Aide-nous, Seigneur, de te trouver dans nos problèmes, de te trouver dans nos épreuves. Et aide-nous, Seigneur, de les donner entre tes mains pour voir ce que tu puisses faire. Seigneur, on prie maintenant pour un réveil ici au Canada. On est dans les derniers jours, vraiment, Seigneur, mais on veut voir les âmes sauvées encore. On veut voir les nouvelles églises commencer ici au Canada, ici au Québec. On veut voir de grandes choses. Mais Seigneur, il faut qu'on croie que tu es capable. Aide-nous, Seigneur, à prier en croyance aujourd'hui. Et merci que on peut réjouir parce que tu es là et tu es le vainqueur et tu nous as rendu vainqueurs aussi en toi. Merci Seigneur. Bénis ce temps de prière ensemble, en foi, en croyance. Au nom du Seigneur. Amen.
Amen.